C'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Il y a quelques années, vers 820 après Jésus-Christ, des explorateurs, cartographes et astronomes partaient de Bagdad, la capitale irakienne, pour cartographier les terres, les fleuves et le ciel. Vous devrez tout au long du jeu faire état de vos découvertes et les retransmettre dans votre journal, influencer les trois guildes, gérer vos caravanes, vos ouvriers et leur équipement. Le jeu se termine une fois que le marqueur d'un joueur atteint la colonne la plus à droite de la piste du journal. Le plateau central. Le but est au final d'impressionner le calife et gagner un maximum de points. Voici les Voyageurs du Tigre, le premier jeu de la nouvelle trilogie de Garfield Games, distribué en France par Pizzy Games, un jeu de Shem Phillips et CJ McDonald qui va utiliser une mécanique de placement de dés. Alors c'est parti, je vous emmène en voyage. Chaque joueur va avoir un plateau personnel, ses influences et ses dés. À votre tour, vous devez soit placer un dé, soit placer un ouvrier, soit vous reposer. Les ouvriers peuvent être placés sur le plateau central et les cartes. La plupart des cartes ont une action indiquée sur le plateau. Lorsque vous placez un ouvrier sur cette carte, vous activez cette action. Ce travailleur reste sur cette carte et est récupéré par la personne qui obtiendra cette carte. Les ouvriers donc n'appartiennent à aucun joueur une fois placés, car ils peuvent être récupérés par n'importe qui par la suite. Chaque case d'action a une exigence pour savoir quels ouvriers peuvent y être placés. Les ouvriers vont être de trois couleurs. Les verts, on ne va pas les récupérer tout de suite car ils sont sur les pages du journal. En revanche, les bleus et les jaunes nous donneront accès à certaines actions et on pourra récupérer des tuiles que l'on placera dans notre caravane. On va y revenir après. Les dés, justement, ils sont placés sur votre tableau, votre caravane composée de cartes de terre, d'eau, de villageois, d'espace et d'inspiration. Les espaces d'action peuvent avoir des exigences en matière de symboles. La valeur de vos dés détermine les symboles que vous avez en fonction de votre zone de tuiles d'amélioration. Vous pouvez placer les dés et faire l'action si vous avez ce qui est indiqué. On va s'intéresser justement à ce placement de dés, voir comment ça fonctionne. Alors vous allez lancer 3 dés au début, vous pourrez en lancer 2 de plus au cours du jeu. Exemple, vous obtenez un 1, un 2 et un 5. Chaque numéro est associé à des icônes. Au début du jeu, le 1 correspond au dromadaire. Cela signifie que vous pouvez vous rendre à un emplacement de placement de dés avec un dromadaire dessus. Posez votre 1 et effectuez cette action, comme récupérer une carte que je poserai pour agrandir mon plateau personnel. On va y revenir après. On peut gagner aussi de l'argent et des marchandises. Dans le tour suivant, vous pourrez améliorer les effets des numéros en achetant des tuiles. Si au début, le 2 ne vous rapporte que 2 pièces ou 2 provisions, en plaçant des tuiles au tour suivant, vous pouvez mettre de nouveaux biens associés à chaque numéro. Vous pouvez acheter une tuile de mise à niveau, ce qui signifie que le 2 sera associé au symbole du navire. Maintenant, au tour suivant, vous pouvez placer le 2 sur un emplacement de placement des navires, par exemple, et faire cette action. Il y a 4 symboles au total pour les dés. Dromadaire, pigeon, navire et télescope. Les dromadaires seront généralement posés pour faire des actions terre, les navires des actions maritimes, et le télescope, acheter des cartes ou tuiles espace. Vous avez compris le principe. On va pouvoir améliorer les cases liées au numéro de nos dés. Les capacités de la guide, les cartes villageois ou la caravane vous permettront de fournir ces biens. Une fois que vous n'avez plus d'options, eh bien vous pouvez choisir de vous reposer. Cela permettra de reprendre vos dés placés et de progresser dans la piste journal. Mais attention, pour faire progresser votre pion dans le journal, il faudra valider certains prérequis, par exemple avoir 2 cartes point de vue, voilà, ou des petites choses comme ça au fur et à mesure que vous allez avancer. Alors on va faire un petit tour des cartes maintenant. Il existe 5 types de cartes différentes que vous pouvez acquérir dans les Voyageurs du Tigre et que vous placerez tout autour de votre plateau personnel. Les cartes terrestres sont placées à gauche de votre plateau, elles vous feront gagner des points de victoire, offriront de nouvelles actions. Les cartes maritimes sont placées à droite de votre plateau. En les plaçant, vous allez créer des connexions avec la carte précédente via des petites barres marron. Vous gagnez immédiatement les effets activés par les éclairs présents sur la carte que vous venez de placer. Les cartes astres doivent être placées au-dessus des cartes terrestres ou maritimes, c'est logique. Elles vous rapporteront des points de victoire. Par exemple, chaque planète vous rapporte un point. Si vous possédez la carte soleil ou lune, vous marquez 3 points. Mais si vous possédez les deux, vous pourrez marquer 14 points. Il y a aussi des cartes comètes et étoiles qui vous rapportent des points de victoire. Les cartes personnages doivent être glissées en partie sous une autre carte pour bonifier les actions. Idem pour les cartes inspiration qui seront glissées, elles, au-dessus des cartes ciel pour vous faire gagner encore plus de points. Dans les Voyageurs du Tigre, vos influences vous permettront une fois dépensées de faire des actions particulières. Par exemple, une fois par tour, vous pouvez dépenser une influence de la guilde bleue pour louer un bateau, pour obtenir le bien nécessaire, ou de la guilde jaune pour changer la valeur d'un dé, ou de la guilde noire pour écrire dans le journal. Au début, vous ne pourrez faire que les actions présentes sur votre plateau de joueurs, mais au fur et à mesure, vous obtiendrez des cartes pour vous développer. Gagner de l'influence est essentiel, car si vous avez la majorité de l'influence dans une guilde, à la fin de la partie, vous marquez 3 points. Certains avantages vous permettent également de placer un marqueur d'influence sur des cartes spécifiques. Si un autre joueur interagit avec cette carte, eh bien il doit vous payer une pièce ou une provision. Le placement des ouvriers fait également partie intégrante de ce jeu et s'accompagne d'une touche particulière, car les travailleurs peuvent changer de propriétaire pendant le jeu. Beaucoup d'informations à prendre en compte lors des premières parties des Voyageurs du Tigre, mais l'iconographie est claire et c'est plus simple lors des parties suivantes. Plus vous aurez de cartes d'un paysage spécifique et plus vous marquerez de points. Il faut savoir se spécialiser dans ce jeu, rien ne sert de toucher à tout. L'un des points forts du jeu, c'est vos cartes espace, mais elles coûtent cher. Et puis n'oubliez pas de planifier vos actions, de prévoir les coups d'après, car sinon, eh bien par moment, vous serez bloqué sur la piste du journal. Un jeu qui va combiner le placement de dés et d'ouvriers et qui récompensera les joueurs qui trouveront les bons combos au bon moment. Et c'est ça, les Voyageurs du Tigre. Premier jeu expert d'une trilogie à venir. Justement, quand on parle de trilogie, Garfield Games, ça nous sort souvent des trilogies. On va retrouver Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes pour parler des Royaumes de l'Ouest.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et on va continuer à parler des jeux de Shem Phillips et SG McDonald avec Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes. Salut Jonathan.
Salut Mathieu, salut à tous.
Alors déjà, depuis tout à l'heure, dans ma chronique, je parle de Les Voyageurs du Tigre. Alors le titre, c'est Voyageurs du Tigre du Sud.
Ok, oui, ouais.
Bon, voilà. Normalement, normalement, on doit quand même trouver la boîte en magasin, je pense. Il ne devrait pas y avoir de soucis.
C'est ça. Et maintenant que tu le dis, oui, je crois que le reste de la gamme, ça va être pareil. La gamme de, du coup, bah, c'est différentes trilogies sur lesquelles bossent ces auteurs à chaque fois.
Ouais.
Donc là, bah, il y a, voilà, une trilogie plus autour civilisation du Maghreb, du Moyen-Orient. Mmh. Et puis avant ça, il avait fait une ces deux auteurs avaient fait une trilogie plutôt autour de l'Angleterre, donc pas les architectes, mais architectes du royaume de l'Ouest,
ouais.
Paladin du royaume de l'Ouest et les vicomtes du royaume de l'Ouest. Alors du coup, ouais, moi je voulais revenir là-dessus. Donc à chaque fois, bah, c'est des gammes, on est plutôt sur du jeu de gestion, donc un peu, voilà, un peu pour les gens qui aiment bien ça, se prendre la tête et se triturer les neurones pendant une heure ou deux.
Ouais.
C'est assez qualitatif dans tous les cas. Même s'il faut faire attention, c'est une gamme assez particulière, parce que c'est pas parce qu'on apprécie un jeu de la gamme qu'on va forcément apprécier les autres.
C'est ça.
Des grosses différences.
Ouais.
C'est vraiment à prendre en compte, surtout sur bah, la gamme, je trouve, du Royaume de l'Ouest, hein, où le premier titre sorti, c'était Les Architectes.
Ouais.
C'est ça qui a pas mal plu, hein, Les Architectes, c'est vrai que c'est très chouette, on est sur un jeu de pose d'ouvrier. Moi, qui me fait clairement penser à ceux qui connaissent à Kellus.
Ah oui, d'accord. Alors moi, j'ai pas joué à Architect, par contre, j'ai joué à Kellus.
T'as joué à Kellus, bah ouais, qui est un monument du genre. Alors, il y a un sacré paquet d'années qui séparent les deux, mais on retrouve bah, de la pose d'ouvrier comme dans un Kellus, c'est surtout un côté très très méchant et très fourbe. Et pour moi, la force d'Architect, c'est aussi sa thématique. Donc l'idée, bah, le titre dit qu'on va jouer des architectes, on va devoir bâtir des choses, mais il y a vraiment une ambiance un peu de gangster qui est très chouette dans ce jeu. Hein, principalement, on va donc avoir différents lieux sur le plateau sur lequel on peut envoyer ses ouvriers pour travailler et faire diverses choses. On va avoir aussi une piste de vertu. Voilà, en fonction des actions qu'on va effectuer, eh ben, on va soit augmenter notre vertu hein, vis-à-vis de l'Église, hein, principalement,
ouais.
Est-ce qu'on est quelqu'un de bien pour l'époque, ou est-ce qu'on va faire des actions un peu plus sombres, comme aller procurer des choses au marché noir, et dans ce cas-là, mm-hmm. Eh ben, diminuer notre vertu. Et ça, c'est une vraie chose à prendre en compte dans le jeu. En fonction de notre niveau de vertu, ben, y a des actions qu'on ne peut plus faire. Si on est quelqu'un de très très bien, eh ben, on ne peut plus aller au marché noir, et vice-versa, si on fait trop souvent des actions illicites, nous n'aurons plus le droit de participer à la construction de la cathédrale. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça à prendre en compte. Mais c'est une thématique que je trouve assez rigolote. Et limite un peu borderline, parce que on peut aussi faire des actions, moi je trouve assez crado, mais c'est un jeu de société donc ça reste cool.
Ouais.
On peut dénoncer ses petits camarades de jeu auprès des autorités locales pour les envoyer en prison. Donc moi la dénonciation dans la vraie vie c'est pas trop mon truc, mais dans un jeu de société je trouve ça assez rigolo. Donc voilà, Architecte du Royaume de l'Ouest, je trouve
donc ça
très chouette. Comme
c'est le premier qui est sorti de la gamme.
C'est le premier qui est sorti, donc on reste quand même sur du jeu de gestion, donc c'est technique. Mais ça se joue bien, c'est pas un truc voilà à se détruire le cerveau, C'est assez rigolo et ça marche plutôt pas mal.
Le deuxième, c'est Paladins.
Voilà, les Paladins, donc toujours les mêmes auteurs, hein, McDonald et Phillips. Là, rien à voir. Là, on est sur un truc, mais à se détruire la tête. voilà, on a un gros plateau devant soi avec 3000 paramètres.
D'accord.
On joue très dans son coin, quasiment plus d'interaction, donc très différent du premier.
Ouais.
Et on essaye de tout gérer, il faut tout planifier. L'idée, c'est qu'à chaque manche, on tire 3 cartes de son paquet, on en choisit une qu'on joue, et les 2 autres, on va les remettre dans sa pioche au-dessus et en dessous, donc on fait un peu ce qui sort après. Donc vraiment un côté déjà programmation qui fait fumer le cerveau. Les cartes qu'on va jouer ont plusieurs impacts sur ce qu'on va faire à notre tour, donc ça, voilà, ça pique beaucoup. On a un tableau de bord avec plein d'ouvriers qu'on peut poser pour déclencher des bonus qui déclenchent des effets en cascade, etc. Donc là, c'est du lourd. De mémoire, sur les premières parties, tu joues pas en moins de 2 heures.
Ouais.
Et c'est du costaud, quoi.
Ok.
Et le troisième, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, cette sensibilité très personnelle, c'est les Vicomtes.
Ouais.
Donc là, on est, moi, dans tout ce que j'aime, du jeu avec que du développement, que tu construis des trucs dans tous les coins.
Ouais.
La base, short des gros mots, mais ça va sûrement parler à du monde, c'est ce qu'on appelle du deck building. Vous allez construire une pioche de cartes, votre propre pioche personnelle qui vous permettra de faire des actions. Et le système est vraiment original. Alors, le genre deck building, c'est depuis que Vaccarino a créé Dominion, ça fait beaucoup d'émules, ça fait beaucoup de petits jeux de société derrière.
Ouais.
Qui se ressemblent tous plus ou moins, il y en a quelques-uns qui sortent du lot, et pour moi, Vicomte a vraiment eu une idée assez originale, et pas que originale, qui est très plaisante. En gros, à votre tour, vous avez quelques cartes en main, et vous allez en jouer qu'une seule,
okay.
Sur votre petit tableau de bord qui peut contenir 3 cartes. Donc quand une carte, vous allez la jouer, ça va vous permettre de gagner des bonus et de faire des actions, et à la fin de chaque manche, vos cartes vont se décaler. Donc au final, vous aurez toujours 3 cartes posées devant vous, qui vont rester d'un tour sur l'autre,
oui.
Et dès qu'elle est décalée tout au bout, elle sort et retourne dans votre défausse. Donc, il y a vraiment un sentiment de programmation qui est chouette, et l'idée, c'est de créer des synergies entre ces trios de cartes que vous jouez devant vous. Donc ça, déjà, c'est très, très plaisant de se dire, je joue ça, comme ça, au tour d'après, je joue telle carte qui fera un bon combo, ça restera pendant quelques tours, et j'enchaîne ainsi de suite. Et après, on va voir un plateau au centre de la table. Donc là, pareil, il réinvente pas une mécanique, mais il l'utilise très très bien, c'est le système de roue d'action de McGertz, qui avait fait Antique, Navigador et ce genre de choses. Donc vous allez avoir un personnage sur ce plateau qui peut se déplacer en sens horaire. Et en fonction d'où il est, ça vous donne accès à certaines actions. Donc pareil, il faut essayer de programmer tout ça. C'est beaucoup moins lourd que Paladin, mais on est quand même sur quelque chose de technique. Et c'est fluide, les tours s'enchaînent vite, c'est très très plaisant.
Donc le plus accessible des trois, tu dirais que c'est Architecte.
Ça reste Architecte.
Ok, donc le premier finalement.
Le premier, ouais, carrément. Et Paladin, vraiment, là, on commence à rentrer sur du lourd. Voilà, moi, j'aurais tendance à dire, quitte à faire un jeu aussi compliqué, pourquoi ne pas jouer à Sruvi et Jeeves.
Et alors, du coup, est-ce que tu as joué à Voyageurs du Tigre du Sud?
Oui, j'ai joué à Voyageurs du Tigre du Sud.
Et alors, parmi les trois, là, tu le classes comment?
Je dirais qu'on est quand même sur pas mal d'options assez techniques.
Ouais.
Je dirais pas aussi lourd que Paladin.
D'accord.
Là, Voyageur du Tigre va être difficile dans un autre sens. C'est que c'est un jeu qui est très ouvert, avec énormément de possibilités. Mmh. Vous en avez dans tous les sens. Mais vous avez, moi, je trouve, très peu de contraintes. Vous avez toujours plein d'options différentes à chaque tour.
Ouais.
Et vous allez pouvoir les réaliser. La différence avec Paladin, c'est qu'il faut vraiment aller chercher les ressources, bien anticiper, pas s'auto-bloquer.
C'est ça, faut anticiper, parce que pour la piste du journal, si tu anticipes pas, tu es un peu bloqué.
Ouais, il y a cet aspect-là qui est un peu technique dans Voyageurs. Et après, par contre, tout le reste, c'est plein d'achats de cartes dans tous les sens, et je trouve que c'est assez libre et assez simple d'acheter ce qu'on veut. Alors après, de bien jouer, de faire des bons scores c'est autre chose, mais au moins, vous serez pas bloqué. Là où Paladin vraiment demande une réflexion assez retors pour bien enchaîner ses coups. Voyageurs, j'ai trouvé ça très chouette. Après, par rapport à Paladin ou d'autres genres de jeux, il y a une dose de hasard qui est assez énorme, qui le rend aussi, je trouve, plus accessible et aussi un peu frustrant, voire un petit peu particulier de temps en temps, je trouve.
Ouais, ouais.
Voilà.
Assez long aussi, les premières parties de Voyageurs du Tigre du Sud.
Ah ouais, oui, je dirais que c'est 1h30 pour faire une partie.
Ah oui, facile, ouais.
Ouais.
Merci beaucoup Jonathan de nous avoir expliqué cette trilogie des Royaumes de l'Ouest.
Merci Mathieu.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
Salut. À la semaine prochaine, salut.